Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la visite radiophonique d'avril et je retrouve Caroline Entraigue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Et Nelly Lafond du Pays d'Arrêt d'Histoire qui a un nouveau nom, Nelly, qui est
Mantes, Gévaudan et Mont-Lozère.
Alors on va aller où aujourd'hui les filles?
Alors aujourd'hui on va faire une visite un peu particulière, on va voir plusieurs sites et plusieurs formes de patrimoine, Caro?
Exactement.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafond.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, on est arrivé. En fait, on est au musée du Gévaudan.
Oui, voilà. On te propose de commencer cette visite par la découverte d'un chef-d'œuvre qui est exceptionnellement exposé au musée pour quelques mois et pour ça, on va retrouver Géraldine Chopin, la directrice du service, pour nous le présenter.
Allez, on est dans ce bel escalier du XVIIe siècle, c'est ça Nelly hein?
Oui, c'est ça, hôtel particulier du XVIIe avec cet escalier qui est vraiment caractéristique de ces hôtels particuliers que les bourgeois vont se faire construire à cette période dans la ville de Mende.
Voilà, et on est arrivé au premier étage du parcours permanent avec la nouvelle directrice du musée, Géraldine Chopin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on est devant ce tableau, la bergère et son troupeau. Alors, déjà, peut-être pour commencer, à savoir qu'est-ce qui nous vaut la présence d'un tableau du musée d'Orsay au musée du Gévaudan?
Alors, le musée participe cette année à une opération intitulée « 100 œuvres » qui raconte le travail, qui est organisée par le musée d'Orsay, qui a fait une sélection d'une centaine de peintures, essentiellement représentant des personnes au travail, le travail sous toutes ses formes. Et les musées en France étaient invités à solliciter le prêt d'une œuvre de cette liste.
D'accord. Alors, pourquoi ce tableau alors que finalement ça ne représente pas la Lozère?
Ça ne représente pas la Lozère, mais ça représente une bergère en train de garder son troupeau avec son chien. Et certes, la scène se passe dans des grandes plaines d'Île-de-France, mais l'activité du pastoralisme fait écho aux collections, à certaines collections du musée. Et puis, c'est une activité qui est très ancrée en Lozère.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce tableau pour nos auditeurs?
Oui, alors c'est un tableau, pour vous en donner un petit peu l'échelle, les gens pensent que quand ils le voient, ils ne s'attendaient pas à une œuvre aussi grande. Il fait à peu près 80 cm de haut, 1 mètre de large, donc un format paysage. Le paysage prend une grande place dans ce tableau. Il y a à peu près un peu plus d'un tiers de l'œuvre qui est occupée par le ciel et le reste, c'est vraiment de la rase campagne, enfin c'est ras au sens, c'est vraiment de la plaine, il n'y a pas de relief. L'horizon est tout droit, si ce n'est qu'il est légèrement animé par des silhouettes d'arbres, la silhouette d'une charrette qu'on remplit de foin, qui a un attelage. Et donc sur la partie terre, si je puis dire, eh bien on est sur le sol des champs. Donc on distingue les lignes, différentes couleurs en fonction des cultures qui sont sur le sol. Et puis juste face à nous, on a quasiment une nature morte très précise qui représente la végétation modeste qui est en train de fouler la bergère, son troupeau. On voit des pissenlits, des petites mousses. J'ai envie d'y voir des lichens aussi. Donc on a des couleurs rousses, vertes, blanches. C'est vraiment très varié. Et puis, ce qui nous intéresse, le sujet du tableau, c'est la bergère et son troupeau. Cette œuvre-là, ce n'est pas un paysage qui serait animé de petites figures. Le sujet, c'est vraiment la figure de la bergère qui est qui a une grande taille en fait dans le tableau, qui est au premier plan, c'est elle qu'on voit en premier. Et juste derrière elle, son troupeau. Il y a des dizaines de bêtes qui sont toutes affairées à brouter, sauf une qui nous fixe. Le troupeau est gardé par un chien qui est sur le côté, qui est vraiment posté en station de surveillance. Et la bergère, elle, donc cette grande figure, c'est une toute jeune fille qui porte un petit capuchon rouge sur la tête, qui est revêtue d'une cape probablement en lainage, d'une épaisse jupe aussi. Elle a son bâton et elle s'appuie dessus et elle regarde ce qu'elle est en train de faire, et elle ne regarde pas du tout son troupeau. Elle est plongée comme dans ses pensées, et surtout, elle tricote. On distingue des aiguilles à tricoter. Elle est probablement en train de tricoter une chaussette, un bonnet, enfin quelque chose qui n'a pas besoin de couture, parce qu'il y a plusieurs, il y a plus de deux aiguilles. Et puis, pour vous parler un peu de l'atmosphère du tableau, le ciel est occupé par quelques nuages, on est en une fin d'après-midi, on ne voit pas le soleil, il est caché derrière des nuages assez sombre, et on distingue des raies de lumière qui sortent du nuage, et ce fameux nuage aussi qui cache le soleil, eh bien, il est bordé un peu d'or, si je puis dire. Et donc il y a toute une palette très délicate de nuances, de bleu, de mauve, de parme dans le ciel, ce ciel de fin de journée. Et ça donne une atmosphère très, je trouve, douce, et c'est assez serein comme tableau. Et si c'était un tableau qui devait faire du bruit, eh bien, il ne serait pas très bruyant, je dirais qu'on entendrait peut-être les sonnailles des moutons, mais ils n'ont pas de sonnailles. On n'entendrait pas grand-chose.
Je rebondis sur ce que dit Géraldine, mais il y a une forme de petite mélancolie aussi dans ce tableau, avec cette lumière douce et le visage de la bergère qui est tournée sur son ouvrage.
Voilà, bergère qui est l'élément principal bien sûr du tableau, mais il y a plein d'autres bergères.
Alors on connaît d'autres bergères qu'il a dessiné ou qu'il a gravé. On retrouve des figures de jeunes filles qui gardent leur troupeau, mais il y a aussi des gardeuses de vaches, des gardeuses d'oies également. Et de manière générale, il a régulièrement représenté, et c'est ce pourquoi il est connu, des paysans à leur travail, à la fois des hommes, des femmes, des hommes qui bêchent, des hommes qui moissonnent, des hommes qui vannent, qui font des bottes de foin. Il y a des familles entières qui se consacrent à la moisson. Et il a représenté également aussi un peu la vie intime des paysans chez eux, la maman qui donne la bouillie à ses petits-enfants, qui allaite son enfant, on voit le père qui est en train de bêcher dans le jardin derrière. Voilà, il s'est intéressé au monde paysan.
Pourquoi justement il s'intéresse au sujet des paysans ?
Moi, j'y vois deux raisons. La première raison, c'est que lui-même, il est d'origine paysanne. Il est né dans une famille de paysans aisés dans le Cotentin, donc près de Cherbourg. Alors, il n'avait pas de vocation à reprendre l'exploitation, comme on dit. Et quand il est devenu peintre, il a vécu à Paris, il est régulièrement revenu également dans sa famille, mais comme d'autres peintres de sa génération, il est tombé amoureux de Barbizon, un village des environs de Fontainebleau, où des artistes venaient peindre. Il descendait dans une auberge, certains ont acheté un logement là-bas, et il s'intéressait beaucoup ont représenté la nature autour de Barbizon, les travaux des champs, enfin les paysages travaillé par la main de l'homme, aussi la forêt de Fontainebleau. Il y a beaucoup de peintures qui représentent des taillis, des orées, du bois, des clairières, des mares au milieu de la forêt auxquelles vont boire des bêtes. Voilà.
Du coup, on peut venir voir ce tableau jusqu'à quand ?
On peut venir le voir jusqu'au 30 août. Au musée, c'est gratuit en plus, donc on peut le voir 5 minutes, repartir et puis revenir le voir une fois suivante sur les horaires d'ouverture du musée.
Mais merci beaucoup Géraldine.
Avec plaisir.
Du coup, on va descendre d'un étage. Tu peux nous dire pourquoi ?
On va poursuivre en fait sur le thème du pastoralisme et des parcours des éleveurs pastoraux, pour la simple et bonne raison que cette année, on est sur l'année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux. On va en reparler plus bas et du coup, on va s'arrêter 30 secondes dans le CIEP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire, puisque c'est une thématique qu'on aborde à travers l'architecture, à travers notre exposition permanente.
allez, on est descendu, on est au SIAP, devant une belle maquette. On parlait d'agropastoralisme, de bergerie, ben, on y est complètement.
Oui, on est devant le focus qui aborde les drails et la transhumance et l'élevage sur le territoire, plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle. Peut-être sans aller trop loin, il y a une tradition d'élevage ici qui perdure encore aujourd'hui. On va en reparler quand on ira visiter une ferme dans quelques minutes. Mais voilà, on a les premières traces en fait d'élevage et de fromage, du coup, dont on va reparler aussi après, remonte au néolithique en fait, sur le territoire. Mais on a surtout donc cette partition du territoire et cette inscription dans les paysages dont Caro va nous parler, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, avec le développement de la transhumance et ces fameuses drails, donc ces chemins sur lesquels circule en fait le bétail. On sait par exemple au XVIIe et XVIIIe qu'on a à peu près 250 brebis en Gévaudan qui sont donc rejoints par 300 000 brebis qui transhument depuis le bas Languedoc l'été. Aujourd'hui, pour donner un élément de comparaison, on a à peu près 20 000 bêtes qui transhument l'été. Donc ça a un peu baissé au niveau du nombre de troupeaux et aussi au niveau de l'entretien du paysage qui est un peu moins aujourd'hui puisqu'il y a moins de bêtes.
Ça, justement, ça permet d'enchaîner un petit peu sur la question des paysages. En fait, en Lozère, le paysage, il est complètement structuré aussi par les questions agricoles qui sont issues notamment de la nature du sol et de la géologie. On va retrouver en margeride la partie un peu plus granit, tout ce qui va être élevage bovin. La même chose du côté Aubrac. Sur la partie Cosse, au sud, Vallée du Lot, plutôt sur le calcaire, un élevage qui va être ovin. Et sur la partie schisteuse, on n'en parle pas dans le musée, bien sûr, la partie plutôt caprin. C'est un paysage qui va être construit par l'homme pour les questions agricoles. Et du coup, ça va créer tout un réseau de patrimoine agro-pastoraux. On va parler là de murets en pierre sèche, de clapas, qui sont les tas de pierres qu'on retrouve plutôt sur le territoire des plateaux et des cosses. Les lavognes aussi, donc ce sont des petites réserves d'eau créées par l'homme avec des pierres calcaires. Tout ce qui va être caselle, les petites cabanes de bergers. Et l'idée de tout cette micro-architecture, c'est vraiment de s'adapter au territoire pour venir créer un sol sur lequel on peut cultiver, là où les sols naturels ne sont pas forcément propices à cette culture, et ils sont là aussi pour gérer la question de l'eau. Et ça, c'est très important. Et puis, c'est vraiment l'adaptation à un milieu sec et assez contraignant. Donc, on a adapté le paysage à l'agriculture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la diminution de l'agropastoralisme, ce patrimoine-là n'est plus utilisé. Ce patrimoine-là se referme avec la végétation qui vient un petit peu le manger. Et on a une mutation comme ça de paysage ouvert à paysage fermé.
On a un paysage qui est construit par l'homme. Il n'est pas naturel, même si il le semble. C'est un paysage qui a été façonné depuis des siècles et des millénaires par les hommes et les femmes. Et donc, on va retrouver, donc, selon les secteurs où on est, un aménagement en terrasse ou faille dans les Cévennes. On a des claides aussi pour les châtaignes, ce genre de choses notamment aussi dans les Cévennes. Et puis, on a un patrimoine de proximité lié à la collectivité, donc les abreuvoirs qu'on trouve souvent à côté du four à pain, les ferradoux, donc ces fameux métiers à ferrer les bœufs. Et surtout, donc ces pratiques pastorales et agro-pastorales vont rythmer la vie des villageois, puisque l'été, les éleveurs qui ont peu de bêtes vont regrouper leurs troupeaux pour n'en former qu'un et vont donc prendre un berger commun qui va aller dans les pâtures collectives pour garder toutes les bêtes. Et donc la vie du village va être rythmée à ce moment-là de manière un peu plus intense, puisque l'activité est un peu plus dense à ce moment-là. Voilà.
Du coup, le SIAP, on sait, c'est ludique, hein, ça s'adresse à toute la famille. Et donc, Caroline, je vois que tu as envie de jouer avec les instruments qui sont ici mis à ta disposition. Alors, c'est une boîte à meufs, c'est ça?
Donc voilà, Caro, tu peux, retrouve quel animal est représenté à travers son pelage et tu vas voir quel animal produit quoi.
Quels sont? Je sais. Vas-y. On est sur la brebis.
Exactement.
Brebis qui donne la laine, le fromage, la viande.
La chèvre.
Exactement.
Et la vache.
Voilà, alors maintenant on te propose d'aller visiter une ferme actuelle pour aller un petit peu plus loin dans les productions et dans l'architecture de ces fermes.
Allez, allons-nous balader. On arrive à la ferme de Cocagne, donc après ce départ du musée du Gévaudan, on retrouve Virginie qui est en plein travail. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Je vais vous laisser vous présenter et comme ça vous continuez à travailler parce que vous êtes pressée, vous attendez un transporteur pour Paris, c'est ça?
C'est ça, pour Rungis. Voilà, je livre tous les jeudis en fait à Rungis de la marchandise et du coup j'ai un délai un peu à respecter. C'est pour ça que c'est un peu la course. Je vais me présenter, je m'appelle Virginie, je suis installée sur la commune de Saint-Étienne depuis 4 ans en tant qu'agricultrice, mais ça fait maintenant 7 ans qu'on a acheté notre maison qui était une ancienne exploitation bovin, laitier je crois, il me semble. Moi je me suis installée avec une grande volonté de faire autrement, pas de vaches, mais des chèvres. Du coup, je suis installée depuis 2 ans en chèvre, mais avant ça, il y avait les abeilles qui sont arrivées sur la ferme. Donc, j'ai acheté 25 ruches la première année et j'ai divisé mes colonies pour pouvoir augmenter mon cheptel à moindre coût. Et je suis arrivée donc à la fin de la première année à 75 ruches et progressivement, j'ai augmenté mon cheptel. Donc, dans la même année, les cochons sont arrivés sur la ferme courant novembre. Du coup, mes cochons sont élevés en plein air. C'est un peu le reflet de ce que je voulais sur ma ferme, parce que je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Mon grand-père était installé sur Arles en tant qu'agriculteur, du coup, mais lui, c'était différent. Il faisait ovin, viande, et il faisait des volailles aussi, qu'il vendait sur le marché de Arles. Et en fait, retransmettre à mes enfants cette passion de l'agriculture que mon grand-père m'avait transmise, c'était important pour moi, mais de la faire différemment, du coup, pas dans l'intensif, mais dans une ferme qui me ressemblait, dans une ferme où prône la générosité, la passion et l'amour des autres. Parce qu'en fait, l'histoire de ma ferme, c'est aussi le nom qu'elle porte. Mon grand-père m'a élevée depuis que j'étais toute petite. Et du coup, il me racontait une histoire quand j'étais petite. C'était l'histoire du pays de Cocagne, où tout prône l'amour, la générosité et l'abondance. Donc, on travaille dur pour que ça marche bien. Et on espère que quelque part, il y aura de l'abondance dans cette ferme. Mais c'est surtout la transmission, parce que je reçois beaucoup de familles, beaucoup d'écoles gratuitement pour pouvoir transmettre cette passion, mais aussi voir comment ça se passe, l'élevage, parce que c'est un métier qui reste dur, surtout pour une femme. Aujourd'hui, en 2026, c'est encore, on n'a pas totalement cassé les codes, hein, on a encore les réflexions très machistes de ce milieu, et on en a d'autres qui sont très bienveillantes. Et voilà, moi, c'est juste transmettre mon métier, recevoir les gens et pouvoir partager ma passion. Voilà.
Allez, on est rentré dans la chèvrerie. On dit chèvrerie ?
Oui, chèvrerie, c'est bien ça. Donc, le bâtiment a été construit l'année dernière, du coup, en année 2025. Enfin, il a été fini en 2025, le 4 janvier 2025. Avant ça, on a dû louer une chèvrerie en urgence. Et une fromagerie en urgence parce que j'ai eu des soucis administratifs. Du coup, ça a été compliqué, mais on s'en est sorti. Là, ça fait un an qu'on est dans la chèvrerie. Donc, du coup, c'est mon mari et des copains qui ont construit le bâtiment. parce que par le choix, hein, faute de délai, ben, il a fallu les respecter. Et bon, ben, il a fallu qu'on fasse un plan B, et le plan B, ça a été Jonathan. Voilà. Donc, du coup, les chèvres sont dans la chèvrerie depuis un an maintenant. Que vous dire sur la fromagerie, à part qu'on y est bien, eh ben, qu'on a 50 chèvres à la traite, des alpines. On a juste deux sanennes qui amènent un peu de lumière au troupeau, parce qu'en fait, j'ai récupéré des terres sectionnaux qui n'ont pas été entretenues pendant plus de 20 ans. Du coup, il a fallu ouvrir les terres, mais vu qu'on m'a arraché les clôtures, ça a été compliqué. Je garde les chèvres, mais au milieu des genêts, vu que je ne suis pas très grande, il a fallu trouver là aussi un plan B. Du coup, j'ai eu deux alpines. Deux sanennes, pardon. Parce que les sanennes, vu qu'elles sont blanches, et ben, au milieu des genêts, on les revoit toujours. Alors qu'au milieu des bois, les alpines, on ne les voit pas. Donc voilà, donc du coup j'ai 50 mères, je garde 20 chèvres sur le troupeau pour un renouvellement parce que j'ai une très bonne génétique mais qui est vieillissante. Du coup voilà, et après j'ai deux boucs. Voilà, donc toutes mes chèvres ont des prénoms et c'est toutes des peaux de colle. Parce que pour moi c'est très important d'avoir des bonnes chèvres parce que j'ai trois enfants, dont deux en bas âge et qui passent beaucoup de temps avec moi à la chèvrerie. Donc pour moi c'était important de garder des gentilles chèvres. Voilà.
Peut-être je peux décrire aux auditeurs le bâtiment dans lequel on se trouve. Du coup, on est sur un bâtiment uniquement agricole, parce qu'on le verra tout à l'heure dans votre habitation. Mais c'est vrai que depuis les années 50, en fait, l'agriculture s'est modernisée, mais l'architecture qui va avec également. On a dissocié le bâti d'habitation du bâti agricole, du bâtiment de stockage. On se retrouve aujourd'hui avec le bâtiment d'habitation, un bâtiment étable, chèvrerie... bergerie et souvent un autre bâtiment de stockage pour tout ce qui va être foin et paille. On est ici sur une petite stabulation, on a des chèvres qui sont sur un paillage de paille. Auparavant, sur les territoires de montagne, souvent les animaux étaient ce qu'on appelait en entrave, dans une travée, souvent attachée. Il faut savoir que par exemple pour les bovins laitiers, il y a encore sur les territoires de montagne 40% des bovins laitiers qui sont en entrave contre 5% sur les autres territoires de plaine. Donc on a vraiment une spécificité aussi d'architecture paysanne de montagne encore aujourd'hui. Donc ici, donc, les chèvreries sont en stabulation libre. On voit, elles peuvent déambuler autour de loges, du tapis d'alimentation, si on parle techniquement, merci, avec le foin. Et donc on est sur un bâtiment à ossature bois avec plusieurs fermes qu'on va retrouver tous les 3-4 mètres. Et en fait, à l'extérieur, un bardage. Là, on est sur de l'alu. On peut aussi trouver des bardages bois. Et ce qui est très important sur les bâtiments modernes, c'est un système d'aération et de ventilation. Si on voit bien sur le toit, en haut, on voit qu'il y a des petites raies de lumière. Et au-dessus du bardage, on a une ventilation. Ce qui permet vraiment d'avoir un bien-être animal plus important et moins de maladies. On va retrouver aussi des bandeaux de polycarbonate qui amène de la lumière naturelle qu'on ne retrouvait pas sur les bâtiments anciens. Et donc cette modernisation des bâtiments, c'est à la fois la modernisation des outils, il faut rentrer avec les tracteurs, avec les engins, mais c'est aussi une prise en compte du bien-être animal et de l'hygiène aussi animale pour avoir moins de maladies.
Voilà, et là, il y a un fort vent du nord aujourd'hui, donc si vous entendez, ça claque un peu. On est en altitude.
Ah ben, on est en plein milieu du Mont Lozère, sur le hameau des Faux. On ne l'a pas dit, le hameau des Faux, c'est juste après la Fage, qui a fait l'objet d'une visite radiophonique, d'une des premières visites radiophoniques sur les clochers de Tourmente.
Je sais pas si on l'a dit, mais on est sur la commune de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès, qui est une commune qui est très, très étendue et qui donc va jusqu'au Mont Lozère.
Allez, on est arrivé à la miellerie, c'est ça, Caro ?
Ah non, Ludo, c'est... Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être une miellerie, Virginie nous le dira. Mais là, on est rentré dans les bâtiments anciens, par le niveau de plein pied, mais côté nord, certainement, côté butte. Donc là, on est dans la partie toute voûtée, qui en fait servait de stockage pour le foin. Donc on a une voûte, ce qu'on appelle en chaînette, comme si on fait tomber un collier, la petite chaîne de collier. On voit que ce n'est pas tout à fait un plein cintre, ce n'est pas une croisée d'ogives, ce n'est pas pointu au milieu. Voilà. Et donc on a un grand bâtiment qui doit faire à peu près bien 20 mètres de long. Hein.
Oui, il fait 200 mètres carrés.
avec du coup un pignon ouvert sur le mont Lozère. Et sous nous, certainement, ce qui devait être une étable peut-être à
l'époque. Oui, c'est ça. Et il y avait les vaches en étrave. Nous, quand on a acheté la bâtisse, on avait tout le transfert de lait qui se faisait. Et on a gardé quand même le charme des auges parce qu'on a trouvé ça... Enfin, c'est l'histoire de notre bâtiment aussi. Et puis, c'est pour rendre hommage à ceux qui ont travaillé durement pour construire ce bâtiment. Donc, nous, on a juste... on a rénové en miellerie parce que forcément, vu qu'il y avait des abeilles, il nous fallait un lieu. Et étant donné qu'on avait déjà ce lieu, c'était un peu garder le charme de la ferme. Et on a fait aussi un atelier biscuit où je transforme l'intégralité de... Enfin, pas l'intégralité, mais je transforme à peu près 80% de mon miel en biscuit, en croquant, en nougat, en bonbons, voilà, en pâte à tartiner, enfin, plein de bonnes choses que je vous invite à venir voir.
Goûter surtout.
Oui, ouais. Goûter, oui, c'est ça. La dégustation, d'ailleurs, est offerte à chaque fois que vous venez. Voilà.
Justement, Virginie, quand est-ce qu'on peut venir ici? Quand est-ce que la boutique est ouverte?
Alors, la boutique, elle est ouverte tous les jours, parce que forcément, vu que je transforme tous les jours en AOP Pélardon, elle reste ouverte tous les jours, tous les matins, de 8h à 11h, sauf le mardi et jeudi, vu que je suis en livraison. Voilà. Elle ferme juste à 10h, une heure plus tôt. Après, en pleine saison, elle ferme juste de temps en temps, parce que forcément, il y a du travail sur la ferme, mais surtout les abeilles, elles ont besoin de moi. Et du coup, j'ai un temps limité. Donc parfois, il arrive que je ferme une demi-heure plus tôt. Il suffit juste de m'appeler. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ma page Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à me contacter.
Voilà, et il y a aussi de la charcuterie, on a parlé de cochon.
Oui, c'est vrai, oui. On transforme des caissettes de viande fraîche tous les premiers week-ends de chaque mois. On livre, on fait en moyenne 3 cochons par mois. Et vous pouvez donc avoir 2 types de caissettes. On a les caissettes d'hiver et les caissettes d'été, forcément les grillades. Et après, on transforme en charcuterie, en pâté, en saucisse sèche, en saucisson. Et on fait plein d'autres choses. On fait de la copa, de la lonze, parce que j'ai vécu une partie de ma vie en Corse, donc mes racines restent là.
Et peut-être on peut juste compléter en disant, on ne l'a pas dit, mais évidemment, on est dans le granit ici. Et donc, on a de très, très beaux bâtiments avec ce granit dans les tons gris et de très belles pierres qui sont taillées. Voilà.
Caro, est-ce qu'il y a une architecture contemporaine remarquable sur les bâtiments agricoles ?
Et oui, on a aussi des architectes qui sont intéressés aux questions des bâtiments agricoles. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les bâtiments agricoles de moins de 800 mètres carrés, on n'a pas l'obligation de recourir à un architecte. Donc, la plupart des bâtiments agricoles que l'on voit ne sont pas forcément des bâtiments faits par des architectes. Dans les années 30, déjà, Le Corbusier, le fameux architecte précurseur un peu du mouvement moderne, avec Norbert Bézard, qui était un militant syndicaliste, ils avaient travaillé sur un concept de ferme radieuse qui fait écho à la cité radieuse, le fameux bâtiment d'habitation du Corbusier qu'on peut trouver à Marseille ou à Firminy, près de Saint-Étienne, et aussi d'un village un peu coopératif. L'idée, c'était vraiment de dissocier, pareil, le bâtiment agricole de la maison. La ferme était organisée autour d'une cour, et cette ferme était assez intéressante parce qu'elle se basait sur la culture d'un ménage, donc 2 personnes, soit 2 unités, on appelait. Et donc, c'était pour une ferme de 20 hectares. Et du coup, ce qui était Le Corbusier dit, par rapport au bâtiment agricole, une ferme n'est pas une fantaisie architecturale, c'est quelque chose de semblable à un événement naturel, quelque chose qui, comme le visage humanisé de la terre, une espèce de plante géométrique qui est aussi liée au paysage qu'un arbre ou une colline. Et donc, il explique que c'est une ferme, c'est un programme un peu particulier, parce que c'est le visage humanisé de la terre. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc finalement, ce projet de ferme radieuse n'a pas vu le jour. Et par contre, aujourd'hui, en Lozère, on a une architecture un peu remarquable. C'est un bâtiment des frères Jeannin, qui ont une agence qui s'appelle Fabrique Architecture, qui est dans en Haute-Loire, si je ne me trompe pas, et qui, depuis 2007, travaille vraiment sur les sujets en lien avec l'agriculture. Et ils ont conçu, notamment, la halle tout en bois d'Aumont-Aubrac, qui est un très beau bâtiment en bois et béton qui accueille pas mal d'événements agricoles.
Pour finir cette émission, Nelly, peut-être qu'il faudrait qu'on parle de fromage, on parle de bergère, on parle de chèvre. La Lozère a une multitude de fromages sur son territoire.
Oui, tout à fait. La Lozère est un département qui compte plus de 150 variétés de fromages différents, et ça, c'est, on le trouve pas partout. Et puis surtout, on a un département qui possède 5 AOP. Donc là, on vient de visiter la ferme de Virginie, la ferme de Cocagne, avec l'AOP Pélardon. Et pour une petite info en plus, la première AOP de France, c'est le Roquefort en 1925. Donc, un fromage qu'on a, nous, sur le territoire. Donc, c'est pas mal.
Nelly, est-ce qu'on a une actualité pour cette émission ?
Alors, ben, l'actualité, on en a déjà parlé. Donc, c'est d'abord la bergère avec son troupeau de milliers exposé au musée du Gévaudan pour les prochains mois. Donc, vraiment, il faut y aller, il faut en profiter. C'est assez exceptionnel qu'on ait un chef-d'œuvre de cette qualité ici. Et puis, la deuxième actualité, c'est l'année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux. Donc, 2026 a été décrétée par l'ONU, année autour du pastoralisme. Donc, toute l'année, il va y avoir des animations, de la valorisation des parcours et des éleveurs. Voilà, nous, on va s'inscrire aussi là-dedans en proposant des conférences, des expositions, des films, ce genre de choses.
On a oublié de le préciser, mais on est ici en plein cœur du territoire UNESCO, qui est justement un territoire inscrit pour à la fois le pastoralisme, les paysages agro-pastoraux et tout ce petit patrimoine dont on a parlé tout à l'heure avec Nelly, hein, les claplaces, les drails, les lavognes. Donc c'est vraiment l'homme qui a forgé le paysage par l'agriculture.
C'est ça. Et donc ces fameux savoir-faire qui se perpétuent et qui se transmettent.
D'accord. Une anecdote pour Brillant Société ?
Allez, bah justement, on va reparler fromage. Du coup, Ludo, est-ce que tu sais combien consomme en moyenne de kilos de fromage par an un Français ?
Oh, ça doit être pas mal, je dirais, je sais pas, une trentaine de kilos ?
Bah, t'es pas loin, 26 kilos. Et une petite dernière, plus locale, en matière de fromage, la Lozère fait figure d'exception, sais-tu pourquoi ?
Non, pas du tout, dis-moi.
C'est le seul département à posséder des AOP des trois laits, c'est-à-dire vaches, brebis et chèvres. Donc on a 5 AOP en Lozère sur les trois laits. Et ça, c'est assez exceptionnel. On est quasi les seuls en France.
Merci beaucoup. On va aller où le mois prochain ?
Alors cette fois-ci, Ludo, on ne refait pas la blague. Cette fois-ci, nous irons réellement à l'Est.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.